Espace Public, novembre 2015 sur Couleur FM, Thierry Borde, bonjour. Alors Espace Public aujourd'hui en compagnie de Cathy Simon, conseillère municipale, conseillère départementale de l'Isère, mais aussi chef d'entreprise, humaniste et sportive, citoyenne tout simplement. Et elle revient il y a peu d'une participation assez peu commune au Marathon de New York. Bonjour Cathy.
Bonjour Thierry.
Mais l'espace public, celui-là même dont il est question dans cette émission, est en deuil depuis le 13 novembre dernier, tout comme la presse l'est depuis le mois de janvier. La presse, une autre forme de l'espace public. En s'attaquant aux journaux, aux lieux de culture, d'échange, de dialogue, de rencontre, les obscurantistes s'attaquent à ce qui constitue toute démocratie, toute société humaine dans ce qu'elle a de plus beau et de plus créatif. Le samedi 14 novembre, quelques heures à peine après le drame, nous nous retrouvons avec quelques collègues du réseau Média Citoyen sur la place Bellecour de Lyon. Les chapiteaux du village de la solidarité internationale trônent au milieu de la place comme un vestige d'un monde où l'humanité est principe. Depuis la veille, nous animons un studio de radio afin de rencontrer tous les acteurs qui font vivre la coopération des Rhônes-Alpins avec le reste du monde. Mais ce matin-là, nous sommes un peu perdus. Le grand chapiteau blanc semble assez dérisoire au milieu de cette grande place. Et nous, notre place, est-elle vraiment là, en ce jour de deuil, de cris, de larmes? Et puis, sur toutes les lèvres commencent à se former les mots « Nous devons continuer ». Contre toute attente, la préfecture autorise la manifestation à se poursuivre tout le week-end. Et le samedi après-midi, nous pouvons réaliser l'entretien que nous avions prévu depuis quelques jours. En fait, nous ne le pouvons pas, nous y sommes contraints par une véritable force qui cherche à vaincre l'horreur et ses messagers. Un entretien exceptionnel, encore une fois. Après Yarian Anna, le mois dernier, qui nous a expliqué la prise en main citoyenne de la ville d'Alep, ce sont deux journalistes alépins qui ont fait le voyage pour nous rencontrer, pour rencontrer le peuple de France et témoigner. Témoigner depuis l'enfer, témoigner depuis la source même de cette barbarie dont nous n'avons finalement que quelques éclaboussures. En Syrie, entre Bachar el-Assad et Daesh, on parle de 500 000 morts et de quelques 10 millions de réfugiés. La Syrie est aujourd'hui la clé, en même temps de la crise des migrants, et de la propagation de la sauvagerie terroriste. Au milieu du chaos, à Alep, des citoyens continuent de résister, des enseignants continuent d'enseigner dans les caves, des journalistes continuent d'informer malgré les dangers. Car cette guerre est aussi la guerre du savoir et de l'information. Alors nous aussi, nous nous devons de continuer pour que plus aucun enseignement ne soit dispensé dans les caves, pour que les journalistes puissent continuer d'informer les citoyens sans risquer la torture et la mort. Et la première chose à faire est de diffuser largement la parole de ces deux Syriens qui se battent contre Bachar, contre Daesh et contre l'hypocrisie du monde. Il faut éliminer Bachar est un entretien collectif du réseau Média Citoyen réalisé par Couleur FM, Radio Pluriel, Reporters Solidaires, le Lyon Bondy Blog et la web radio Les Enfants du Rhône.
Le studio Média Citoyen, on est le 14 novembre 2015, on est à Lyon, place Bellecour, c'est le village de la solidarité internationale. Alors c'était une journée particulière avec tout ce qui s'est passé hier soir à Paris. On est quand même à Lyon, au sein de ce village, parce que c'est la solidarité internationale, parce que peut-être on se devait d'être là, et on se devait être d'autant plus d'être là, qu'aujourd'hui on avait rendez-vous avec deux journalistes, deux reporters citoyens, journalistes syriens qui viennent d'Alep pour nous voir, qui viennent témoigner de la situation là-bas. Lawai Abou Aljoud et Youssef Sedik sont avec nous. Alors nous, c'est tout un collectif autour du réseau Média Citoyen, un collectif où on retrouve l'association Reporters Solidaires avec Francis Viali et Jean-François Richard, avec Jean-Philippe Benant de Sens Public, avec Yelena du Lyon Bondy Blog, avec Maxime Deblanc, avec Patrice Berger de Radio Pluriel et avec Pierre-Alain Gourion des Enfants du Rhône et avec Thierry Borde de Média Citoyen bien sûr, et avec Riyad Ben Ali qui va encore une fois, merci à Riyad, nous servir avec pour ce grand travail d'interprétariat aujourd'hui. Et merci et bonjour à Louaï et Youssef qui viennent directement d'Alep. Bonjour à vous. Louaï, Youssef, donc on a vu la dernière fois, on a interviewé Yarian Anna, représentant du conseil du gouvernorat d'Alep, qui nous expliquait la situation à Alep avec des citoyens qui prennent le pouvoir, qui ont le pouvoir. Alep, où vous essayez d'exercer votre profession, votre vocation de journaliste pour informer en Syrie, pour informer le monde entier. Vous avez tous les deux cette expérience du journalisme à Alep, vous l'avez développée différemment chacun. Vous êtes à l'origine chacun aussi d'agences de presse pour pouvoir vous permettre d'exercer ceci. Donc on aimerait votre témoignage. Et avant tout, juste peut-être rappeler que vous êtes ici parce que vous avez été invité par une association qui s'appelle le Collectif des Amis d'Alep. Voilà. Youssef, pouvez-vous nous raconter comment vous exercez cette activité journalistique à Alep aujourd'hui?
Ana Youssef Saddiq.
Je suis Youssef Saddiq, le directeur du centre de Alep d'information, Alep Media Center. Je suis désolé d'être venu en France par un pareil jour noir pour la France avec tout ce qui s'est passé, avec cette opération terroriste qui a fait autant de victimes. Nous présentons nos condoléances aux familles et à toute la France. Peut-être que nous, Syriens, sommes les plus à même à comprendre la douleur que traverse la France aujourd'hui avec tout ce que nous traversons, nous, depuis 5 ans. Nous souffrons de ce terrorisme depuis 5 ans de manière continue. Par rapport au travail médiatique et journalistique en Syrie et à Alep, plus exactement, nous, dans le centre médiatique de Alep, nous travaillons à peu près pendant plus de 5 ans maintenant. Nous travaillons pour transmettre les images, les témoignages, les vidéos de la situation des gens à Alep à toutes les agences de presse internationales et à toutes les chaînes de télévision à notre portée. Et nous sommes en lien fort avec l'agence de France Presse AFP. Nous avons un grand nombre de photographes et de caméramens syriens et étrangers qui travaillent avec nous sur le terrain quotidiennement. Comme tout le monde le sait, l'exercice médiatique et journalistique par le passé était restreint au pouvoir, au régime. Nous, en Syrie, après notre révolution, après le début de notre révolution, nous sommes parvenus à exercer notre métier avec liberté. On essaye de s'améliorer, d'évoluer pour transmettre une vérité claire au monde extérieur. Je vais parler un petit peu de notre agence à Alep qui a débuté au mois de septembre de 2011. Après la libération d'une grande partie de la ville de Alep et du nord de la Syrie, après avoir expulsé l'armée de Bachar et toute sa police civile à l'intérieur, nous avons commencé à exercer avec un groupe de journalistes professionnels et certains activistes dans des associations. Nous sommes mis d'accord sur 2 points fondamentaux. Le premier, c'est de faire parvenir les images de toute la destruction que subit le peuple et les villes syriennes. Et le deuxième point, c'est de constituer une agence de presse nationale syrienne qui soit du peuple et pour le peuple. Et ce sont sur ces 2 points que nous travaillons jusqu'à aujourd'hui.
Très bien, peut-être la parole à Louaï maintenant. Louaï, vous aussi, vous avez créé une agence de presse. Un petit peu plus récemment, je crois.
Je m'appelle Louaï Aboujoud. Je suis le directeur du groupe ProMedia in Syria. Nous travaillons sur plusieurs axes. Le premier, ce sont les reporters télévisuels, la protection et la mise en conscience à travers des programmes de télévision avec des studios numériques. Nous sommes présents à la ville d'Alep et Idleb. Le travail journalistique aujourd'hui en Syrie est très dur, très compliqué, pour plusieurs raisons. Le manque de compétences dans ce domaine, le manque de journalistes professionnels dans ce domaine. Et la deuxième raison est l'instabilité du pays. Le citoyen journaliste ou le journaliste en Syrie est à la merci de plusieurs facteurs, dont le régime, parce que le régime considère que l'information, que le média est une guerre réelle qui se mène contre lui. Et le deuxième danger, c'est d'être poursuivi par les groupements d'Al-Qaïda. Et la seule raison qui le met en danger vis-à-vis d'Al-Qaïda, ce sont les relations qu'on peut avoir avec l'Occident. C'est pour cela que Daesh et Al-Qaïda considèrent les journalistes comme des apostats ou des traîtres.
Et vous êtes bien placé pour connaître ces risques. Parce que vous-même, Louaï, vous avez expérimenté la prison du régime syrien et les geôles des soldats de Daesh.
Au mois d'Adar 2012,
Au mois de mars 2012, j'ai été arrêté par le régime de Bachar al-Assad et j'ai été accusé d'avoir transmis des images à des presses qui étaient opposées au régime et aussi pour avoir manifesté contre le régime et aussi d'autres accusations que je ne pourrais, que je ne sais pas. Je suis resté pendant 15 jours et j'ai été libéré après une caution, après avoir payé une corruption au juge Hossein Farou. Le 28 novembre 2013, j'ai été kidnappé par Daesh parce que j'étais correspondant de la chaîne El Arabia. Ils considèrent que cette chaîne est une chaîne d'apostats, de mécréants, et qui est financée par les Américains. Donc 45 jours en isolement. Pendant les 160 jours, je n'ai croisé aucun des soldats de Bachar ou des Shabiha de Bachar ou des membres de la police secrète de Bachar. La majorité des gens qui étaient dans les prisons que j'ai fréquentées, ou bien des journalistes, ou bien des révolutionnaires, ou bien des officiers qui ont fait déflexion à l'armée de Bachar, ou bien des officiers de l'armée libre. Aucun qui était affilié au régime. Je suis sorti de prison. Après 4 mois, nous avons fondé notre agence de médias. Nous nous appelions Shafak, agence Shafak. 1 mois après, nous avons changé le nom, Promédia.
Promédia. Alors, on reviendra tout à l'heure. On a bien entendu dans ce que vous disiez qu'il n'y avait pas de prisonniers avec vous chez Daesh qui venaient du camp de Bachar el-Assad. Et je crois que ça méritera une explication un petit peu plus tard. J'aimerais que Youssef, vous nous disiez, vous aussi, est-ce que vous avez eu des problèmes avec le régime d'un côté, avec Daesh de l'autre, pour exercer votre profession ?
Moi, personnellement, je n'ai pas été arrêté. Je n'ai pas été mis en prison, mais on m'a gardé pendant plusieurs heures dans les postes de police. Lorsque j'étais étudiant à Damas, j'ai été questionné à propos de certains propos que j'avais tenus à la fac. Et depuis ce jour-là, je suis revenu à ma ville de Alep et je suis devenu un activiste dans les mouvements pacifistes contre le régime. Nous avons organisé des manifestations, des révoltes pacifiques à l'intérieur de notre ville. Par rapport à notre agence, il y a beaucoup de membres parmi nous qui, eux, ont été arrêtés et torturés par le régime. Et certains parmi nous ont subi des grandes tortures de la part du régime. Par rapport à l'État islamique, nous n'avons pas subi ni de torture, ni nous avons été arrêtés par eux. Mais par contre, nous avons eu des moments très durs avec eux lorsqu'ils se sont installés dans le nord de la ville d'Alep. Ceci a duré pendant plusieurs mois jusqu'à ce que l'armée libre est parvenue à les chasser de notre secteur. Et ça a été à la fin de l'année 2013.
Aujourd'hui, quelle est la situation militaire à Alep ?
Aujourd'hui, la situation militaire est très dégradée à Alep. Il y a un attroupement énorme des forces du régime et des forces iraniennes autour de Alep et qui sont soutenues par l'aviation russe. Ils ont provoqué une grande destruction et beaucoup de victimes avec leur bombardement énorme sur notre secteur. Ces derniers jours, les forces du régime sont parvenues à reconquérir certaines régions de la ville de Alep après que l'aviation russe a bombardé et elle a appliqué la politique russe connue qui consiste à la terre brûlée, en sachant que toutes ces petites villes et ces petits villages, les gens les ont quittés totalement, absolument. Il n'y a plus aucun habitant. Environ 100 000 individus. Et le régime est parvenu à faire ses avancées par le soutien russe. Et le but, c'est de faire basculer le rapport de force sur le terrain. Et c'est pour pouvoir avoir des arguments de négociation pendant Vienne et pendant les négociations de Vienne.
Vous parliez de forces iraniennes. Est-ce qu'il y a des forces iraniennes sur le terrain, concrètement, des troupes de l'armée iranienne ?
Oui, effectivement, il y a des forces et une présence réelle. Il y a des soldats iraniens dans les rues de la ville d'Alep, enfin dans le secteur qui est dirigé par le régime. l'Iran ne cache pas sa présence. Il y a un grand nombre d'officiers iraniens qui ont été tués dans le rift de Alep pendant cette bataille. En plus, ne pas oublier qu'il y a des forces irakiennes chiites qui combattent. Et en plus, le Hezbollah aussi est de la partie. Et pendant les deux derniers jours, l'armée libre a réussi à prendre en otage certains membres d'entre eux.
Une question de Francis Viailly.
La question est pour tous les deux. Je voudrais savoir, dans ces conditions, comment ils arrivent à exercer leur travail de journaliste et comment ils ont accès aux informations.
Cette guerre est une guerre qui va définir notre avenir. C'est que ou bien on existe et on devient, ou on ne sera plus rien. Elle ressemble quelque part à la Révolution française. Se mettre en danger est quelque chose d'inévitable dans cette situation. Nous n'avons pas le choix, en sachant qu'un certain nombre de nos collègues sont tombés sous les balles, sont martyrs. Et nous avons aussi dans nos rangs un grand nombre de blessés. Et seulement hier, nous avons un photographe qui est gravement atteint à Alep. Et actuellement, il est en Turquie pour se faire soigner.
Pour le public français, pour le public européen qui essaie de comprendre ce qui se passe là-bas, on comprend bien que vous travaillez en tant que journaliste avec beaucoup de difficultés, que c'est dangereux, que vous pouvez faire de la prison, etc. Mais nous avons aussi besoin de comprendre qui fait quoi, de comprendre quels sont les enjeux de pouvoir sur place, de comprendre pourquoi, par exemple, le territoire français est attaqué. Vous l'avez abordé, et merci d'avoir eu cette pensée pour ce qui s'est passé encore dans notre pays. Donc nous avons besoin de comprendre les rapports qu'il peut y avoir entre le pouvoir traditionnel baasiste de Bachar el-Assad et le nouveau pouvoir qui apparaît de Daesh. Quels sont ces rapports? Comment est-ce que ça fonctionne selon vous?
Premièrement, nous sommes certains que la chose la plus importante, c'est de transmettre l'image de la réalité que nous vivons et que la guerre médiatique est plus forte que la guerre militaire en elle-même. Et c'est pour cela que nous continuerons à transmettre les images qu'il faut. Nous sommes tristes pour ce qui s'est passé hier à Paris. Et la première cause et la dernière cause de ce qui s'est passé hier à Paris n'est que Bachar el-Assad. Walid el-Muallem, qui est le ministre des Affaires étrangères syrien, a menacé l'Europe d'actes terroristes. Ahmed Hassan, qui est le mufti de Bachar, avait promis qu'il enverrait des kamikazes dans les capitales européennes. Le régime menace et Daesh exécute. Des menaces ont été proférées par le régime et elles ont été exécutées par Daesh. Depuis environ 9 mois, le régime avait menacé des explosions dans le rift de Alep. Daesh a fait pas mal d'explosions dans le rift dans le même secteur, le rift de Alep. Daesh et le régime, ce sont deux faces pour la même médaille. Leur seul but est d'avorter la révolution syrienne.
Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien que vous faites entre Bachar el-Assad et Daesh? On nous dit ici en Occident qu'il faut mieux combattre Bachar pour combattre Daesh. Donnez-nous la priorité. Pour vous, la priorité, c'est plus Bachar que Daesh. Alors qu'en Occident, c'est d'abord Daesh avant Bachar.
Cette idée de soutenir Bachar contre Daesh est une fausse idée. Éliminer Bachar el-Assad engendre l'élimination du terrorisme dans toute la région. Les révolutionnaires et l'armée libre affrontent deux ennemis en même temps. Le combat avec Daesh est long et coûteux. En revanche, la bataille avec le régime dépend de Bachar et de son existence. À la chute de Bachar el-Assad, à ce moment-là, les révolutionnaires pourront combattre exclusivement Daesh. Au lieu qu'il y ait deux ennemis sur le même terrain, il ne restera plus qu'un. Et il est impossible de mettre la main dans la main entre Bachar el-Assad et les révolutionnaires. C'est pour cela qu'il faut éliminer Bachar el-Assad. Actuellement, la France pourrait-elle signer des accords avec El-Baghdadi, le responsable de Daesh?
Non.
Est-ce qu'il peut y avoir la moindre négociation avec nous?
Non.
Je pense que c'est la décision de tout le peuple français. Il y a un assassin qui tue les gens sans vergogne. Est-il possible un jour qu'on lui fasse un ravalement de façade et qu'on le remette en place? Bachar al-Assad a tué 500 000 Syriens et il a fait 10 millions de réfugiés. Et si Bachar al-Assad aurait été évincé il y a plusieurs années, Daesh n'aurait pas existé. Savez-vous qu'un grand nombre des officiers, des chefs de Daesh étaient dans les prisons de Assad? Ils ont quitté ces prisons pendant la révolution, après que la révolution ait éclaté, et ils ont constitué Daesh après.
Vous avez des noms?
Oui, absolument.
Al-Adnani.
El-Adnani, le porte-parole officiel de Daesh, il était dans la prison de Sadlaya, tenu par Bachar. Abu Luqman, Abu Al-Asir, Abu Mohamed, Mohamed Chawal, Mahmoud Al-Absi, Mohamed Al-Absi,
Moussa Chawal.
Ce sont des officiers de Daesh et la majorité d'entre eux étaient dans les prisons de Bachar. Ils sont sortis entre 2011 et 2012. Pendant la révolution syrienne, lorsque la révolution était encore pacifique et les gens manifestaient à main nue, ils demandaient à Bachar de quitter le pouvoir. Il leur a répondu à coups de cartouches, de missiles, de bombes, et en a tué des centaines. Cette vérité-là que tout le monde connaît, on veut éluder cette partie et repartir en négociation avec Bachar pour le maintenir au pouvoir. Il est l'assassin qui utilise ces hommes-là pour massacrer son peuple, et il le soutient financièrement. Il le finance en achetant du pétrole chez eux. Il achète du pétrole de Daesh, et c'est avec ça que l'État islamique a ses financements. Daesh, sans ses finances, elle ne pourra pas exister. Et un grand nombre de services de renseignement occidentaux ont confirmé ce fait. Il faut arrêter ce financement, bombarder ces lieux, ces champs pétroliers, pour que Daesh ne puisse plus le vendre, en sachant que ce pétrole est au peuple syrien qui est volé par Daesh. La France est-elle prête à accueillir encore davantage de réfugiés syriens si le gouvernement de France et la France en elle-même, si son peuple sont prêts à accueillir encore plus de réfugiés, qu'ils laissent Bachar en place?
La France est isolée dans sa position contre Bachar. Et donc, au niveau international, on a d'un côté les Russes qui soutiennent Bachar, les Américains qui combattent mollement Daesh. Comment voyez-vous à l'avenir la situation internationale dans l'aide à apporter à l'armée de libération?
Notre grand regret, les amis de Bachar al-Assad, ils étaient justes, véridiques, bien plus que les amis du peuple syrien. Les amis de Bachar al-Assad lui ont donné tout ce qu'ils ont pour le maintenir en place. Mais les amis du peuple syrien, ils ne donnent rien au peuple syrien, sauf quelques aides humanitaires.
Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez des médias français? En quoi est-ce que nous pouvons vous aider, et plus généralement l'opinion publique européenne et l'opinion publique française à travers ces médias?
Les médias français ont la capacité, peuvent mettre en exergue bien mieux que nous les crimes que commet Bachar al-Assad. Par exemple, comme le fait que les bombardements russes n'ont fait que des victimes civiles, rien d'autre. Mettre un projecteur sur ce qui se passe derrière les prisons de Bachar al-Assad. 10 000 prisonniers ont été tués dans les prisons de Bachar al-Assad. Certains sous la torture et d'autres de la faim. Leurs images ont été exposées aux Nations Unies. Aujourd'hui, en Europe, on nous parle de retravailler avec Bachar et de le réhabiliter. Pour pouvoir trouver une solution en Syrie, les mêmes personnes qu'il y a quelques années en arrière ont dit qu'il faut que Bachar Assad quitte le pouvoir. Le président de la France, M. Hollande, et ses prédécesseurs, Sarkozy, ont dit que Bachar doit quitter le pouvoir. Obama aussi l'a dit. Mais hélas, aujourd'hui, il y a un autre discours. Sauf que c'est à ça qu'est parvenu Bachar Assad, avec le soutien de ses alliés iraniens, russes, ils ont réussi à retourner l'opinion. Le monde et Obama aussi ont dit à Bachar, l'utilisation d'armes chimiques est une ligne rouge. Malgré tout, Bachar a utilisé les armes chimiques et a tué 1500 personnes, dont des centaines d'enfants. Et la punition, la récompense de Bachar a été soustraire les armes chimiques de l'arsenal de Bachar. C'est comme si on condamne un assassin à lui enlever son arme, c'est tout. Et on n'a aucun soutien aux victimes.
Est-ce que vous pouvez préciser où et quand Bachar el-Assad a utilisé les armes chimiques ?
قصف بشار
à peu près au milieu de l'année 2014, Bachar a bombardé avec les armes chimiques 70% des régions syriennes. Douma,
Khaldiyya,
et Hasaki, Khan al-Assal, Dariya, Madamiya, le Rif de Damas Est. Bachar el-Assad a utilisé plusieurs fois les armes chimiques, dont certaines très restreintes et très petites. Et une seule fois, il a utilisé de manière en grande envergure. En une seule salve, a réussi à tirer plusieurs missiles chimiques sur le secteur du Rif de la Route de Damas.
Et vous pensez, est-ce qu'on peut être optimiste pour la révolution syrienne si personne ne les aide actuellement? Vous pensez qu'ils peuvent tenir encore combien de temps?
Nous sommes convaincus, nous croyons fondamentalement que la volonté du peuple syrien sera victorieuse. Les révolutions des peuples souvent passent par des périodes très dures et par là est passé le peuple français pendant sa révolution et d'autres peuples lorsqu'ils ont fait la leur. Nous serions victorieux, qu'on soit soutenu ou pas. Simplement, ce sera plus ou moins long.
Eh ben, on vous remercie pour cet optimisme. On va conclure en disant qu'on est dans le même conflit. Les événements de Paris de vendredi l'ont montré. On est face au même bourreau. On a les mêmes victimes des deux côtés de la Méditerranée. Il faut peut-être qu'on essaye de s'unir pour pouvoir essayer de combattre la barbarie ensemble. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite.
Merci à vous tous. Et merci de nous avoir donné l'opportunité de parler au peuple français. Nous présentons nos sincères condoléances à tout le peuple de France. Nous comprenons parfaitement vos sentiments. Nous avons subi beaucoup d'incidents tels que celui-là et nous les subissons encore tous les jours. Il y a des mortiers, des bombes qui tombent tout azimut sur les citoyens et qui détruisent les bâtiments sur les gens qui y habitent. Et cette situation-là continue parce que le monde ne veut pas aider le peuple syrien. En réalité, c'est une marque de honte sur le front, sur la face du monde, sans mort, avec tout le respect qu'on peut avoir, c'est ce que meurt en Syrie tous les jours.
Shukran.
Merci à vous tous. Shukran. Thank you.
C'était John Baez, We Shall Overcome, un chant d'émancipation des esclaves noirs américains à l'époque. Voilà, on trouvait que ça allait bien à la situation des Syriens aujourd'hui, décrite par Louaï et Youssef, nos collègues alépins. Cathy Simon, qu'avez-vous pensé de cet entretien? Les événements qui viennent de se produire en France sont forcément choquants, marquants, déstabilisants. A priori et a posteriori, quand on est une femme politique, quand on a ces responsabilités-là, que pensez-vous de tout ça?
Alors, je crois que tous les adjectifs ont été dits, hein, choquant, alarmant, émotionnellement très difficile, je trouve, à vivre. Et là, en écoutant le reportage un peu plus, parce que on se rend compte que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière est juste monstrueux et que c'est l'homme qui est à l'origine de tout ça. Donc, pour l'humaniste que je suis, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a engendré comme monstre pour pouvoir s'attaquer et au peuple syrien et au peuple français au nom d'une cause ou d'une religion qui... a priori n'est pas la bonne. Donc voilà, je suis encore très émue de ce qui s'est passé. Je prône la liberté et je remercie les espaces publics et les journalistes comme vous de vouloir déclarer haut et fort la vérité et de continuer à exercer votre métier, parce qu'il faut du courage et il faut de la volonté pour que les gens puissent savoir ce qui se passe véritablement.
Ce courage, cette volonté, c'est surtout ce dont sont chargés finalement ces journalistes syriens qui continuent malgré tout. Après nos entretiens, là, ils sont encore un petit peu en France. Ils vont témoigner dans des lycées, dans de nombreux lieux. Ils vont aller dans les ministères aussi pour raconter ce qui se passe. Mais après, ils retournent là-bas pour continuer à informer, parce que finalement, dans leur cas, informer, c'est résister, c'est lutter.
C'est vivre, tout à fait. Mais moi je suis vraiment admirative de ces deux journalistes véritablement.
Et les événements qui ont eu lieu le 13, donc la veille finalement de cet entretien, ont finalement fait prendre un tournant à notre réflexion commune, collective. Je me souviens, on s'était vu quelque temps après le 7 janvier.
Complètement.
Et on avait parlé d'un livre que vous m'aviez prêté d'ailleurs, de Abdel Nour Bidar.
Exact.
Qui prenait par-dessus tout la fraternité.
Mm-hmm.
Est-ce que le mot d'ordre reste le même?
Moi je pense que voilà, sans faire de mauvaise politique, en tout cas, le sens fraternité a aujourd'hui tout son sens, c'est le cas de le dire. On dit attention aux amalgames, et c'est vrai. Il y a des gens qui se battent pour une cause qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas pour certaines communautés la leur, et ils la décrivent haut et fort et ils la décrivent, et ça c'est important. Je pense que il faut faire de l'information en effet dans les lycées, dans les collèges, auprès de nos politiques. Il faut continuer à vivre ensemble et à se respecter. La France est riche de sa mixité, il faut véritablement en profiter, et puis il faut se battre ensemble pour éradiquer bien le mal qui arrive aujourd'hui. On ne peut pas s'en prendre comme ça à des innocents comme vous, comme moi, qui n'ont rien demandé, qui sont en train de se balader pour une cause qui est une fausse cause. On ne tue pas au nom d'un dieu.
Et comment explique-t-on finalement, même si cette question est ressassée dans tous les médias ces derniers temps, mais elle est vraie aussi en local ici à Bourgoin-Jallieu, dans le nord Isère, à l'île d'Abo. Encore ce matin, si on lit le journal, on voit les perquisitions qui ont été faites dans différents quartiers de notre territoire. Comment ça arrive dans nos territoires? Comment ces pensées viennent toucher des jeunes de nos pays?
Alors, je vais essayer de mesurer mes propos parce qu'on est à la radio, mais ce sont quand même nos enfants de la République à la base. Ce sont des enfants qui vivent ici, hein, des jeunes ados, des jeunes adultes qui vivent ici. Donc il y a un manquement quelque part. Peut-être notre politique nationale, communale, départementale. En tout cas, il faut revoir nos règles. Il faut redonner l'espace à l'éducation, il faut redonner de l'espace aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux administrations. Et puis, il ne faut pas laisser arriver de telles dérives, parce qu'il y a un manquement quelque part, et ça c'est évident. Donc c'est difficile aujourd'hui de voir des perquisitions un petit peu de partout, et en effet, dans le Nord-Isère et comme dans toute la France, il y en a énormément. Peut-être qu'il fallait réagir il y a déjà quelques temps de ça, quand les premiers événements ont eu lieu et quand on a aussi commencé à s'attaquer à la presse et à Charlie Hebdo en l'occurrence.
Finalement, en interne, à l'intérieur de nos territoires comme à l'extérieur, finalement en Syrie, c'est ce que disait le journaliste, si on avait réussi à faire partir Bachar el-Assad bien avant, ben on n'aurait pas Daesh et les attentats aujourd'hui.
Voilà, c'est en fait le produit de, c'est un produit hein, de ce que nous faisons. Donc, il faut véritablement réagir vite et bien, ne pas réagir avec de la colère et de la peur parce que ça engendre des énormités qui seront difficiles ensuite à enfin, pour lesquels sera difficile de vivre avec, il faut réfléchir ensemble. Les deux journalistes ont expliqué qu'il fallait vivre ensemble, réfléchir ensemble pour combattre le mal. Je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est que à tous les niveaux, on peut réfléchir pour se demander ce qui va et ce qui ne va pas et prendre les mesures nécessaires pour que de telles horreurs et des personnalités ne puissent pas se révéler dans le plus monstrueux de ce que peut présenter l'humanité.
Est-ce qu'il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique, vous qui êtes jeune en politique?
Je me pose la question. Non, mais si les politiques, tous bords confondus, pouvaient de temps en temps s'entendre, je ne vais pas parler des extrêmes parce que vous connaissez mon opinion dessus, mais...
Les auditeurs ne la connaissent pas forcément.
Bon, alors on va éviter le FN, puisque aujourd'hui, malheureusement, tous ces amalgames font leur montée. C'est juste difficile à concevoir pour moi. Mais si, en tout cas, les acteurs politiques à tout niveau, et en l'occurrence en local, pouvaient s'entendre autour d'une table pour réfléchir à une vraie politique, une politique commune pour éradiquer les problématiques de quartier, de métier, d'insertion, etc., et ne pas faire qu'en parler ou de donner de l'argent, mais travailler ensemble pour le mieux vivre, eh bien, peut-être que ça irait bien mieux. Redonner la place à chacun en se souvenant que l'individu a des droits, mais il a aussi des devoirs. Voilà, et ne jamais troncher les fondements de notre République qui sont liberté, égalité, fraternité.
Est-ce que c'est finalement pas là qu'on est en train encore une fois de rater une marche comme après le 7 janvier où cette unité nationale a volé en éclats et puis là peut-être que l'unité de tous nos politiques va voler à l'aune des élections régionales.
Voilà, hein. J'espère qu'elle ne volera pas. Je me dis toujours qu'on ne se rappelle pas des leçons de l'histoire. Charlie Hebdo a été quelque chose de catastrophique. Les gens se sont mobilisés. Il y a eu des rassemblements spontanés. On a lutté pour que le journal puisse encore exister. Et puis, on a lutté pour une certaine expression de la presse. Qu'en est-il aujourd'hui? On va se remémorer les événements de janvier. Aujourd'hui, on arrive sur quelque chose d'un peu plus dramatique, puisque c'était pas que la presse de visée, c'était un liberté d'expression qui était le Bataclan, c'était un lieu d'entente fraternelle dans les bars. On ne doit plus louper la marche, en tout cas. On ne doit plus la louper, et chacun, à son niveau, doit faire quelque chose pour restaurer le bien-vivre ensemble et puis pour revoir un petit peu les mauvaises règles qui sont en train de se profiler. Alors certes, je suis encore jeune politique, je suis encore très utopiste, mais j'ose espérer qu'on puisse y arriver, en tout cas par respect pour les victimes. On n'a peut-être pas commencé par là, mais voilà, un vrai respect pour les familles endeuillées. Et puis je pense aussi encore aux personnes qui sont hospitalisées et qui luttent dans leur chair, dans leur morale, pour pouvoir résister et lutter contre la haine qui pourrait s'installer, ou la colère en tout cas qui pourrait gronder.
Tout le monde a peur aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous espérez, vous? Quel est votre espoir, votre espérance?
Alors moi, je suis un peu comme les journalistes. La peur est là quand on se promène un petit peu dans des lieux publics, mais non, le plus important, c'est de vivre, c'est de résister et de lutter. Les révolutions ont eu lieu pour ça. Nos parents se sont battus aussi pour nos libertés. Aujourd'hui, il ne faut plus y toucher. Donc non, moi, je propose que l'on vive ensemble et puis qu'on profite des bons moments et qu'on se souvienne en tout cas que la liberté et de pouvoir se balader, c'est ce qu'il y a de plus beau avec la fraternité. Et n'oublions pas qu'on est tous des hommes à part entière, hommes et femmes, et qu'on doit vivre ensemble.
Alors la clé, la fraternité, la solidarité. Et en solidarité, vous y connaissez un petit bout parce que vous avez vécu on l'a abordé tout à l'heure rapidement dans l'introduction, mais une aventure assez assez merveilleuse. Vous êtes parti à New York faire le marathon, mais alors pas toute seule du tout. On va vous écouter en parler tout à l'heure. Vous avez amené tous vos collaborateurs, pardon, de votre entreprise à venir courir avec vous à New York. Alors on va en parler, mais après la petite pause musicale, vous allez voir, c'est une pause musicale qui vous est dédiée.
Ah.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur la scène. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur la scène. Monsieur Lister Young, si une bombe atomique tombait sur New York,
New York City,
que feriez-vous? Je briserai la vitrine de chez Tiffany et je piquerai tous les bijoux. Monsieur Grégory Corso, poète, qu'est-ce que la puissance? Rester debout au coin d'une rue et n'attendre personne. Bonjour monsieur Hendrix, je suis du New York Times. Salut! Moi je suis de la planète Mars. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson.
Babylone, tu te shoot et tu rêves.
Ford.
Si tu veux faire Mac,
Roland Cadillac.
Si tu veux faire
Chic, Roland Buick.
Si tu Rockefeller,
Roland Chrysler. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sol. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. Nous étions arrivés balancés par des vilains d'acier. Du haut de nos chevaux, nous regardions les fumées. De l'asphalte, des morceaux de pneus, de la gomme et des souliers. J'ai dit, nous détacherons les ponts de cette cité pour qu'elle puisse s'envoler. Pour qu'il n'y ait plus de sang, de sueur, ni de larmes. Seulement le silence, coincé entre mon rêve et deux océans. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé.
Cathy Simon, ben oui, forcément, c'était Yves Simon. Dans les années 80, il avait rêvé New York. Et alors vous avez rêvé de New York pendant quelques mois, quelques années, avant de réaliser ce beau projet. Vous êtes donc parti à New York et avec toute votre équipe dans votre entreprise. Donc, vous êtes responsable du Centre Centaure. Oui. Et avec toute votre équipe, vous êtes allé courir au marathon de New York.
C'est ça. En fait, j'ai rêvé New York lorsque j'étais jeune. L'idée m'avait un petit peu passé et puis lors d'une sortie entre nous, on m'a lancé un défi en me disant « Bah boss, quel sera ton prochain défi pour nous ?» Et j'ai lancé le défi du marathon de New York. Donc d'une petite plaisanterie d'un samedi soir autour d'un verre, ça s'est terminé. Le lundi matin, a appelé un ami marathonien en lui disant « Bah voilà, le prochain défi pour mon entreprise, c'est de courir le marathon. »
C'est le type de défi qui vous apparaît juste au bout d'un verre.
C'est pour ça que j'évite de boire.
Mais alors du coup, c'est une aventure fabuleuse que vous avez vécue.
Alors, c'était extraordinaire. C'est un travail de 2 ans quand même. On a cherché des sponsors privés pour pas faire un mélange de genre entre la directrice que je suis et des fonds privés au public. Donc, on a cherché des sponsors avec la volonté véritablement de faire partir tout le monde avec moi, de faire courir tout le monde avec moi, donc que l'on soit jeune ou moins jeune et bientôt retraité. Donc de ce défi fou, d'ailleurs les gens nous ont qualifiés de fous et moi de folle, nous voulions relever la tête et partir ensemble pour une vraie cohésion de groupe et puis parce que pour certains, ils n'étaient jamais partis de la région en avion, en train, en bateau. Donc ça a été voilà un fabuleux voyage, de merveilleuses rencontres, mais des journées de douleur aussi.
Personne ne vous a laissé tomber, personne ne vous a dit « mais non, mais c'est pas pour moi ça ».
Alors si, bien sûr, les premiers mois, en fait, on s'entraîne sans s'entraîner, on mange, on s'amuse, parce que New York paraît encore loin, hein, il faut 2 ans à peu près pour s'inscrire. Et puis finalement, les 8 derniers mois, on se dit, bah là si, Cathy a les dossards, elle a les sponsors, elle a les baskets, il va falloir y aller. Et non, personne m'a laissé tomber parce que véritablement l'enjeu était vraiment un enjeu de cohésion de groupe. Mais au-delà de ça, j'avais la volonté aussi de récupérer des fonds pour une action qui m'est chère, qui est la lutte contre la mucoviscidose. Et je voulais récolter des fonds pour donner du souffle à ceux qui en ont besoin. Donc on a aussi créé notre association, les Tamalous Centauriens, avec ce leitmotiv-là. Donc voilà, on a donné du souffle, enfin tout ce qu'on avait.
C'est beaucoup de souffle, un marathon. Et puis c'est du souffle pendant 2 ans, parce que c'est des entraînements de plus en plus intensifs. Hein.
Alors, ça a été des petits entraînements d'un quart d'heure, 20 minutes, avec véritablement un ami qui est coach et qui était déjà parti à New York, hein, qui avait déjà créé des défis. Et puis, les derniers mois se sont intensifiés avec 4 jours d'entraînement par semaine. Et puis des sorties longues le dimanche, donc ça a été des sacrifices hein, professionnels et puis personnels, beaucoup le dimanche, parce que partir à 6h du matin pour aller courir une course et puis revenir à 13h ou 14h quand on a une vie de famille, c'est pas forcément simple. Mais en tout cas, on l'a fait pour aller au bout de l'objectif et la plus grande récompense, en tout cas ma plus grande fierté pour l'équipe, c'est que tout le monde soit venu médaillé. Donc voilà, a couru le marathon jusqu'au bout et la médaille du marathon de New York.
Tout le monde a fini.
Tout le monde a fini.
Les 42 kilomètres, c'est ça?
C'est 42 km 195.
Précisément.
C'est ça.
Les 195 derniers doivent être les plus durs.
C'est terrible. Non, ça a été source de douleur, mais en même temps, paradoxalement, on l'oublie très vite. Parce que le marathon de New York, vous êtes vraiment, en tant que coureur, un héros. Dans le sens noble du terme, hein, c'est-à-dire que les gens mesurent l'effort qu'il vous faut pour courir les 42 kilomètres. On est passé dans des endroits vraiment mythiques, alors Harlem, le Bronx, Brooklyn, au-delà des beaux quartiers new-yorkais, voilà, on a vu aussi ce qu'il y avait de moins joli. Mais avec une population qui vous encourage sur les 42 kilomètres, qui vous ont préparé à manger, à boire, des serviettes, à qui vous donnez vos vêtements au fur et à mesure que vous vous déshabillez. Et pour eux, c'est le Graal hein, du marathonien. Donc, on a été vraiment porté par une foule, par des policiers, des pompiers qui vous déclarent que vous êtes leur héros du jour. Et c'est juste, voilà, il y a quelque chose de magique qui se passe. Donc, finalement, la douleur, on l'oublie. On la retrouve le soir quand il faut se laver et puis mettre 2-3 chaussettes. Voilà, c'était juste fabuleux.
Et dans l'esprit d'équipe, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et puis après le marathon, il y a eu une évolution forcément.
Alors, l'évolution a été de se dire, Cathy a un défi fou, on va la laisser faire pendant un petit moment. Après, ils ont mesuré l'importance du 42. de 42 km et quand on n'en courait que 20, on se disait on en a encore 22 à faire. Donc il y a eu des phases de découragement. Il y a vraiment eu des personnes qui ont voulu à des moments donnés abandonner le projet parce que trop difficile. Et puis non, il y avait toujours quelqu'un pour rattraper l'autre en disant bah non, écoute, on part pour New York, c'est fabuleux, pour Centaure, pour Cathy, pour la lutte qu'elle, enfin pour l'idée qu'elle défend, on doit y aller. Donc voilà, on est parti tous avec la boule au ventre, hein, parce qu'on est arrivé le vendredi soir et on courait le dimanche. Mais véritablement, on était vite dans le bain quand on a couru notre première course, qui est la Dash. C'est la course des nations dans Central Park le samedi matin avant de courir le dimanche matin pour le marathon.
Mais justement, quand ces épreuves-là, on les surmonte tous ensemble, bah, ça renforce tous les liens. Il ne doit pas y avoir deux entreprises avec des liens aussi serrés que les vôtres.
Je crois qu'on fait des envieux. Véritablement, le centre Centaure-Rhône-Alpes a été pionnier, en tout cas en la matière, puisque les centres, il y en a 12 en France. On a notre délégué général, donc à Paris, qui est parti avec nous. Il aimerait que je recrée un défi d'entreprise avec les autres centaures de toute la France. C'est pas pareil, c'est pas la même ambition. Moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose avec mon équipe, avec qui je travaille depuis plus de 23 ans maintenant. Je peux pas dire que ce sont mes collaborateurs et que moi, je suis la directrice générale. En tout cas, c'est notre côté justement très humain. On est une bande de collaborateurs qui travaillons ensemble pour la sécurité routière et qui avons été capables de surmonter un défi qui paraissait pour certains irréalisable.
La course à pied pour la sécurité routière, c'est un concept intéressant.
C'est pas mal. Je vais continuer mon métier premier. Hein. La course, je vais en faire encore un peu. Je réfléchis à un prochain défi, mais en tout cas, la sécurité routière, on a encore du travail à faire.
Alors, sur ce genre de défi, votre hiérarchie, parce que vous avez une hiérarchie, il y a différents centres.
J'ai un conseil d'administration. Alors, j'ai un conseil d'administration avec des actionnaires, qui sont deux grands groupes. Quand j'ai présenté mon projet en disant qu'en plus, j'allais fermer la société pendant une semaine, ils m'ont demandé financièrement comment je pouvais justifier. Alors, je leur ai dit qu'on allait travailler d'arrache-pied pour combler la semaine où nous allions être fermés. Ils m'ont suivi, véritablement. Là, aujourd'hui, ils nous applaudissent encore de l'événement qui a été créé. Non, ils ont une entière confiance et d'ailleurs, je les en remercie parce qu'ils me suivent dans toutes les actions que je peux mettre en place. Et celle-ci, même si le défi semblait se gros nu, pourquoi courir New York alors qu'il y a des marathons partout en France? Pourquoi aller chercher de l'argent, autant d'argent pour une lutte qui pourrait paraître pour certains assez lointaine parce qu'il y a d'autres choses à régler? Non, finalement, ils nous ont même aidés et puis ils nous ont portés dans notre projet. Ils nous ont encouragés sur Facebook lorsqu'on était à New York. Ils nous ont vraiment été... je crois que sur ma page, ce jour-là, il y a eu 2000 partages parce qu'on était pucés et donc on pouvait voir l'évolution.
Et alors, est-ce que c'est ça finalement qui fait que... Il me semble qu'il y a quelque temps aussi, vous avez reçu un prix vous décernant comme étant une personne très brillante et en termes de responsabilité sociale de l'entreprise notamment. Et est-ce que c'est finalement dans le sens de choses comme ça que se situe effectivement la clé? C'est-à-dire que l'entreprise, c'est pas forcément le lieu où on va travailler, et le travail, l'étymologie, c'est finalement le sens de torture, de souffrance.
C'est ça.
Et l'entreprise, c'est autre chose aussi, c'est quelque chose qu'on construit ensemble.
Comme j'ai plaisir à dire, un capitaine de navire n'est rien sans son équipe, et je pense que certains grands directeurs devraient s'en souvenir. On n'est rien sans les personnes qui travaillent avec nous. Et je pense que ça se construit. Pour bien travailler ensemble, il faut bien vivre ensemble, il faut apprendre à se connaître. Alors, c'est pas tout le temps facile. On peut aussi quelquefois me reprocher de franchir une barrière qui finalement pourrait être située du côté très personnel. Mais qu'importe, aujourd'hui on travaille bien ensemble, la société se porte bien, mes collaborateurs viennent le matin de bonne heure pour qu'on puisse boire le café ensemble et discuter, partent tard le soir parce qu'il y a toujours une anecdote on est toujours partant sur des défis ou en tout cas des projets ensemble, et je pense que c'est important.
Et vos prochains défis, vous avez une petite idée?
Alors, je ne peux pas le dire tout de suite à l'antenne, mais il aura lieu dans 2 ans. Je ne l'ai pas encore annoncé à mes collaborateurs, j'attends le moment propice, en général je vais le trouver. Là on a prévu une petite course en montagne, mais vraiment quelque chose entre nous, pour dire de changer un petit peu d'air et puis de courir un petit trail. Et puis le grand défi arrive dans 2 ans, j'attends de, voilà, de mettre ça en place pour pouvoir en parler. Ça va pas tarder.
Très bien. Et alors, New York, c'était comment ? Vous m'avez dit que vous aviez été aussi très ému quand vous avez vu Ground Zero, pour revenir à des sujets un petit peu plus lourds.
C'est tout le paradoxe de partir pour quelque chose de très festif, hein, parce que là-bas, c'est la fête. Le marathon de New York, c'est la fête. De partir une semaine et de revenir juste pour les événements. On a visité New York, alors les beaux endroits de New York, et puis j'ai demandé à aller plutôt dans les côtés un petit peu moins réservés aux touristes, hein, les côtés d'Harlem, même si Harlem aujourd'hui est très joli, mais voilà, les coins un petit peu atypiques, le Bronx, Brooklyn. On avait pour ça un guide qui a été extraordinaire, et puis oui, on a voulu aller se recueillir au Ground Zero. Alors, moi, parce que j'avais fait la promesse à un ami pompier français d'y aller pour lui, et puis parce que il était important qu'on puisse aussi se rappeler l'événement qui aujourd'hui est, voilà, les États-Unis ont construit plus grand, plus haut, plus fort. Le sens de la patrie est là. Ceci dit, personne ne se regarde d'un mauvais œil. Tout le monde marche dans la rue, black, blanc, beurre. Et ça, c'était assez extraordinaire. Et ce lieu de recueillement, c'est un lieu en même temps, paradoxalement, paisible, de paix. Donc voilà, ça m'a énormément ému. Enfin, ça nous a tous émus parce qu'on ne parlait pas. On regardait les immenses fontaines qui ont remplacé les 2 tours jumelles. On nous a expliqué pourquoi ces fontaines. En fait, c'est pour expliquer que les corps qui n'étaient pas retrouvés puissent partir dans l'au-delà de façon assez poétique, romantique. Et puis, on a découvert des pompiers qui nous ont ouvert leur caserne et qui nous ont expliqué l'horreur de ce qu'ils ont vu ce jour-là. Donc voilà, c'était très émouvant. Et puis, ça a été... je crois que je fais un marathon blues, en fait. M'entraîner, travailler pendant 2 ans, voir tout ce que j'ai vu, avoir des lumières plein les yeux, recevoir autant d'amour, parce qu'on reçoit énormément d'amour, moi c'est difficile.
C'est difficile, le retour ?
Le retour est difficile, et la chose que je me suis dit dans l'avion, c'est si on pouvait ramener énormément d'amour pour en dispatcher un petit peu, ce serait pas mal.
On en a besoin en ce moment.
Voilà, je crois qu'on en a besoin.
J'ai l'impression que vous avez, dans ce petit quart d'heure de dialogue, tracé quelques pistes de solutions, finalement, la fraternité, la solidarité, l'esprit d'équipe, et puis comme vous le disiez, à New York, tout le monde marche quand même main dans la main, on dépasse la différence, la diversité.
Complètement. C'est quelque chose qui vous crie, hein, qui vous crie au visage, qui vous prend à la gorge. On ne voit pas de mauvais regards, on voit les gens s'aider, marcher main dans la main, enfin chacun est un petit peu libre de ce qu'il fait, de ce qu'il a envie de faire, avec malgré tout un grand respect, un profond respect par contre, et ça aussi ça m'a heurté, pour les forces de l'ordre, donc là-bas les policiers new-yorkais, et puis pour les pompiers, ils sont véritablement considérés comme des héros, et donc là oui ça m'a ému. Tout simplement.
C'est un peu ce qu'on a vu aussi en France cette année, finalement, cette reconnaissance pour des professions.
Enfin, parce que ce sont, voilà, moi j'ai une pensée pour les pompiers qui sont là dans des moments qui sont pas tout le temps faciles, qui font des métiers qui sont vraiment pas faciles, et un minimum de respect serait pas mal.
Ils ne sont pas toujours très respectés, ni toujours très valorisés
par
leur fonctionnement. Oui. Oui. Ben en tout cas, Cathy Simon, c'était un vrai plaisir d'avoir toute cette bouffée d'optimisme à travers vous aujourd'hui.
Merci
beaucoup d'être venu nous voir à Espace Public. Merci à tous.
Merci.